La mort sépare des amoureux. Hermès était invité au mariage du jeune Orphée. Il avait une tendresse particulière pour ce beau jeune homme. Orphée était le premier bébé qu'Hermès avait vu naître. Il se souvenait de cette nuit magique où il avait accompagné sa sœur Artémis chez la nymphe Calliopée qui mettait au monde son enfant. C'est ce soir-là qu'Hermès avait découvert les mystères de la naissance. Et puis, en grandissant, Orphée était devenu le plus extraordinaire musicien du monde. Il jouait de tous les instruments avec une telle grâce que tous les hommes et toutes les bêtes étaient séduits par sa musique. La fête se déroulait dans une jolie clairière. Les tables avaient été mises au milieu de la prairie. Il y avait des fleurs partout et une petite rivière coulait. Hermès découvrit avec émerveillement la jeune femme qu'Orphée épousait. Elle s'appelait Eurydice, et ses yeux étaient aussi noirs que ses cheveux. Elle avait piqué des fleurs blanches et mauves dans ses longues tresses, et un diadème doré retenait le voile bleu qui flottait sur sa tête. La gracieuse Eurydice ne quittait pas Orphée des yeux, et Orphée ne cessait de lui chanter de magnifiques airs en s'accompagnant de sa lyre. En observant les deux amoureux, Hermès se dit qu'être aimé rendait beau. Mais plus il les regardait, moins il comprenait d'où naissait cet amour. Pourquoi ces deux-là s'aimaient-ils ? Mystère. Eurydice s'était éloignée de quelques pas de son mari. Orphée chantait et jouait de la lyre. Pour pouvoir mieux danser, Eurydice avait délacé ses sandales. Ses pieds nus se posaient légèrement sur l'herbe, tandis qu'elle tournoyait. Soudain, elle mit le pied sur un serpent dissimulé dans l'herbe. En un éclair, le serpent la mordit à la cheville. Eurydice poussa un petit cri et tomba sur le sol. Orphée se précipita vers sa bien-aimée, la prit dans ses bras, mais déjà la vie l'a quittée. Les lèvres d'Eurydice devinrent pâles et le venin du serpent atteignit son cœur. La jeune femme mourut. Le chagrin d'Orphée explosa violemment. Il serrait sa femme contre lui en pleurant et tous les invités pleuraient avec lui. Comme il le faisait pour chaque mort, Hermès accompagna l'ombre d'Eurydice aux enfers. Lorsqu'il revint de chez Hadès, il découvrit que la douleur d'Orphée n'avait cessé d'augmenter. Jour après jour, Orphée pleurait, inconsolable d'avoir perdu son amour. « Toi qui conduis les morts chez Hadès, lui dit Orphée, aide-moi à ramener mon aimé chez les vivants. Je ne peux continuer à vivre sans elle. » Mais Hermès n'avait pas le droit d'amener un vivant chez les morts. Il répondit « Seul Zeus peut t'autoriser à aller aux enfers. » Aussitôt, Orphée décida de convaincre Zeus. Il se rendit au palais de l'Olympe et emporta sa lyre. Lorsqu'il fut en présence des dieux, il se mit à jouer et à chanter. Son chant était d'une beauté triste sans pareille. Sa musique émut tous les dieux et les déesses. « Sais-tu que ce voyage aux enfers est dangereux ? » lui demanda Zeus. « Oui, je le sais, » répondit Orphée, « mais vivre sans Eurydice est plus dangereux encore. » Zeus sourit. Il savait bien qu'être amoureux permettait parfois de vaincre tous les obstacles. « C'est bon, Hermès, conduis Orphée auprès d'Hadès. » Le voyage jusqu'aux enfers parut court à Hermès, car tout le long du chemin, Orphée chanta l'amour de sa belle Eurydice. Arrivé devant le vieux Charon, le jeune Orphée ne trembla pas. Il continua de jouer. Et Charon, qui avait d'abord refusé de laisser cet homme vivant monter dans la barque des morts, fut peu à peu charmé par la musique. Il accepta de transporter Orphée de l'autre côté du Styx. Hermès était stupéfait devant le courage d'Orphée, mais il pensait que face à Cerbère, le terrible chien des enfers, Orphée prendrait peur et renoncerait. La force de cet amour suffirait-elle à remener Eurydice à la vie ?